Ben bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent en direct pour ce numéro 38 de l'entonnoir du Bitcoin. On est très content voilà, de vous retrouver encore en ce dimanche après-midi. Aujourd'hui, on a trois sujets qui, comme l'a dit Roxy, sont peut-être un peu techniques tous les trois. Mais voilà, on va quand même s'en sortir, je crois en nous, surtout avec la communauté à côté pour apporter son petit grain de sel à chaque fois. Du coup, au menu, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc, on a un premier sujet qui concerne une proposition d'amélioration de Bitcoin, donc la BIP numéro 324. Et en gros, l'idée de cette BIP, c'est d'amener du chiffrement sur la couche peer-to-peer de Bitcoin. Donc, vous le savez, les nœuds, ils échangent plein d'informations entre eux sans arrêt. Et actuellement, ces informations sont échangées en clair. Et ce qui peut amener quelques problèmes, et notamment le fait que ben, quelqu'un qui arrive à intercepter la communication, ben, il peut très enfin, il voit le trafic, quoi, c'est en clair, donc il voit exactement ce qui est dit. Et ensuite, il pourrait même éventuellement modifier certains messages, donc, ce qui pourrait avoir une incidence plus ou moins importante selon ce qu'il fait exactement, mais voilà, qui pourrait être quelque chose qu'on aurait envie quand même d'éviter. Et donc là, la proposition vise à amener une couche de chiffrement sur ces échanges de messages en pair à pair, qui serait du coup optionnel. On pourrait avoir des nœuds qui continueraient à faire du peer-to-peer non chiffré en clair. Mais voilà, ce serait une espèce de V2 qui apporterait ça en plus, qui serait optionnel, et à partir de laquelle on pourrait éventuellement ensuite aller amener d'autres choses au-dessus encore, puisqu'il y aurait maintenant une histoire de version sur la couche peer-to-peer. Le deuxième sujet, ça sera RGB. Donc RGB, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Vous le savez donc déjà sûrement, mais pour rappeler rapidement, dire en une phrase ce que c'est un protocole construit en surcouche au-dessus de Bitcoin qui vise à permettre des smart contracts qui soient à la fois scalables et confidentiels sur Bitcoin et sur Lightning, avec un certain nombre de paradigmes qui placent RGB dans une catégorie finalement assez différente de plateformes de smart contract on-chain comme Ethereum, par exemple. Donc, vraiment, les idées et la philosophie sont différentes, même si les objectifs visés ben, sont en bonne partie relativement similaires. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce qu'à la conférence Paradigme Bitcoin qui avait lieu en Suisse le week-end dernier, RGB a annoncé en gros que ça arrivait bientôt. Donc, c'est toujours un bientôt avec un petit TM à côté parce qu'on prend toujours nos pincettes. Mais c'est vrai que ça, c'est effectivement de plus en plus proche et on le voit ben, dans les développements, dans ce qui est quand même commence à arriver en termes de produits. Donc on commence à y croire de plus en plus et donc c'est l'occasion d'en reparler un petit peu. Et enfin, une petite question un peu provoque, c'est les blockchains sont-elles vraiment immuables? Donc bon, vous vous doutez qu'ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que du coup Bitcoin est vraiment immuable? Donc, est-ce que quand je fais une transaction aujourd'hui et qu'elle a été minée, est-ce que j'ai vraiment l'assurance qu'elle ne pourra pas être modifiée? Et pour répondre à cette question, on va notamment s'appuyer sur un rapport qui a été fait par la société de sécurité Trail of Bits, qui avait été mandatée pour ça par la DARPA, donc une agence américaine, qui, même si elle n'a pas que trois lettres, voilà, est quand même une agence importante. Et donc, ce rapport, il a été pas mal critiqué, pas mal déconstruit par pas mal de personnes dans la communauté Bitcoin. Donc, ça sera intéressant de voir un peu les arguments de ce rapport et éventuellement pourquoi ensuite ils peuvent être facilement balayés, ou enfin plus ou moins facilement d'ailleurs. Voilà le programme. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a envie d'ajouter quelque chose. Et puis sinon, ben, let's go. Ça fait déjà 5 minutes que je parle tout seul. Super. Bah, du coup, on peut commencer avec le premier sujet qui concerne du coup BIP 324, qui, comme je le disais, est ambitionne d'ajouter du chiffrement sur la couche peer-to-peer de Bitcoin. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? C'est parce que donc c'est une idée qui est relativement ancienne. Alors, je vais peut-être dire n'importe quoi sur les dates, mais c'était Jonas Schely qui l'avait introduite, donc avait créé le BIP, il me semble, en 2019. Bon, de toute façon, voilà, si c'est pas ça, vous pouvez fact-checker facilement en regardant BIP 324 sur Internet. Et donc, c'est pas une idée qui est toute récente, mais elle ressurgit aujourd'hui parce que, en gros, c'est une idée qui est implémentée, donc c'est-à-dire qu'on a le code qui a été pas mal review, Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est encore plus de reviews et éventuellement, du coup, finir par la merge dans Bitcoin Core si y a un consensus qui se dégage en faveur de l'ajouter dans Bitcoin Core. Et donc, il y a eu un développeur Bitcoin, notamment, voilà, qui a aujourd'hui, enfin, qui a cette semaine appelé à faire plus de reviews qui a, enfin, voilà, il y a un board qui est très bien fait sur le projet pour voir un peu ce qui manque encore. Il y a quelques trucs qui manquent. Mais voilà, pour essayer finalement de pouvoir merger BIF 324 éventuellement. Gounès?
Ouais, pour préciser, le VIP 324, il remplace le 151, et le 151, il date de 2016, pour rajouter du chiffrement sur le protocole peer-to-peer. Donc
Top, ouais.
l'idée est vraiment pas nouvelle, quoi.
Ouais, effectivement, ouais. Merci, merci, effectivement, bonne précision. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, Jonathan Shelly s'est retiré du développement Bitcoin. Donc naturellement, c'est d'autres personnes qui ont un peu repris le flambeau. Donc ça peut expliquer peut-être pourquoi il y a eu peut-être un passage à vide où on a pu reparler de cette proposition. Mais voilà, aujourd'hui, ça revient sur le devant de la scène et c'est assez intéressant. J'ai vu notamment des prises de position de Matt Odell, par exemple, enfin pardon, de Marty Bent qui a l'air d'être plutôt en faveur de cette amélioration. Et qu'est-ce que ça fait en gros? Qu'est-ce que c'est l'idée? Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit un peu en introduction, les nœuds, ils discutent en clair. Donc par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Ils peuvent se dire, ben, moi, j'ai appris qu'il y a une nouvelle transaction qui a été faite. J'ai un autre nœud qui me l'a dit, et ben voilà, je te communique l'information. Ils peuvent se relayer les blocs entre eux. Enfin voilà, c'est ce genre de message-là. Et cette donnée, elle est complètement en clair. Pourquoi est-ce qu'elle est en clair? Parce qu'en gros, de base, dans le modèle de menace de Bitcoin, on n'a pas du tout besoin de faire confiance aux nœuds dont on reçoit les informations, puisque c'est des choses qu'on peut de toute façon vérifier. C'est-à-dire que un bloc, typiquement, on peut vérifier s'il est valide, une transaction, on peut vérifier sa signature. Et donc, en gros, puisque chaque nœud fait la vérification, il n'a pas besoin de faire confiance aux nœuds dont il reçoit les informations. Et donc, c'est pour ça que ces notions de chiffrement et d'authentification qui sont deux notions qui souvent vont de pair, étaient pas forcément perçues comme très utiles sur la couche peer-to-peer de Bitcoin. Mais il y a quand même des problèmes que ça induit. Et l'un des problèmes qui est les plus importants pour moi, ça reste quand même le problème de la surveillance. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, le trafic Bitcoin, il est très facilement identifiable puisqu'il est en clair. Et donc, par exemple, si vous êtes chez Free, ben Free, il voit que vous avez un nœud Bitcoin chez vous. Pareil, si vous êtes chez Orange, chez SFR ou que sais-je. Donc, votre opérateur, il peut voir ça. Un État, a fortiori, peut le voir puisqu'il peut facilement récupérer ces informations. Et puis, toute une gamme d'acteurs plus ou moins importants peut avoir accès à ces informations.
Tout
Ouais.
ça, ouais, juste pour préciser, tout ça, c'est dans l'hypothèse où le nœud n'utilise pas un protocole par-dessus, un réseau genre comme Tor ou E2P.
Exactement,
Si
ouais.
le nœud utilise un réseau chiffré déjà comme ça par-dessus, ou en dessous plutôt, et ben l'ISP et l'État ne pourra rien voir. Mais l'idée, c'est vraiment de rajouter ça au protocole de base et pas dépendre de réseau d'autres réseaux.
Ouais, tout à fait, exactement. Bah voilà, effectivement, je pense que tu as dit aussi la deuxième partie qui est importante. Donc il y a le côté surveillance, mais donc en fait, il faut voir que ce qu'on identifie quand on peut voir ça, c'est que vous êtes un nœud Bitcoin et que vous avez telle IP. On peut même, alors là, il faut commencer à avoir un peu plus comment dire, d'infrastructure, mais on peut même, en utilisant des analyses temporelles des messages que vous envoyez, commencer à essayer de deviner un peu quelles transactions sont les vôtres et quelles ne le sont pas, etc. Donc là, c'est des trucs un peu plus poussés. Mais voilà, ça peut poser des petits problèmes de ce genre-là. Et enfin, il y a un autre truc qui est que éventuellement, quelqu'un pourrait se servir de ça pour s'interposer entre un autre nœud auquel vous êtes connecté et qui est honnête et vous envoyer des faux messages. Et donc, ou bien faire de la rétention d'informations et ne pas vous envoyer certains messages. Et donc, voilà.
Ce que tu dis,
Vas-y.
Kreida, en fait, c'est une conversation qu'on avait eue dans une autre discussion. C'est typiquement les DPI, les Deep Packet Inspection, donc c'est des équipements réseau très intelligents qui pourraient éventuellement. Ça, c'est le modèle de menace un peu extrême, mais
qui pourrait intercepter tous les messages et par exemple enlever par exemple toutes les transactions. Là, le sujet, ce n'est pas de dire vérifier transaction, c'est que si tous les messages que tu reçois, il n'y a pas de transaction, voire pas de bloc. Bah, en fait, c'est le modèle de menace, c'est ce qu'on appelle les attaques Eclipse, mais qui se ferait au niveau du FAI. Et donc, qui serait beaucoup plus systémique parce que on le verra un peu plus tard dans le dans ce space. L'attaque Eclipse, ça consiste en fait à créer plein de nœuds dans le réseau et puis finalement à isoler un ou plusieurs nœuds en leur donnant pas toute l'information du réseau. Et donc là, si tu le fais au niveau du FAI, bah, c'est encore plus facile. Donc effectivement, ça peut être quelque chose à imaginer, quoi.
Carrément, ouais. Et comme tu l'as dit, on le verra un peu plus tard avec le troisième sujet, justement. Et comme l'a très bien dit Lounès, effectivement, on pourrait se dire que bah, finalement, ça n'a pas vraiment de sens de s'en occuper au niveau vraiment dans le protocole Bitcoin, au niveau de la communication peer-to-peer, puisqu'on peut le faire très bien avec des trucs comme Tor ou avec un VPN, même si avec un VPN, du coup, vous faites confiance aux fournisseurs de VPN, ce genre de choses. Mais du coup, l'hypothèse, c'est que ce type de système qu'on doit donc plugger encore au-dessus sont bah, du coup un truc supplémentaire à faire et que donc du coup, si on veut qu'un maximum d'utilisateurs soient protégés, il vaut mieux le mettre bah, directement dans Bitcoin.
Et surtout, si je peux rajouter, Tor lui-même est quand même relativement vulnérable. Ça fait plusieurs jours qu'on parle des vulnérabilités ou de Tor qui subit des attaques par déni de service. Donc, il y a déjà un risque supplémentaire à utiliser Tor. Et on a un autre risque d'ailleurs, c'est que Tor également facilite les attaques de type Eclipse. À trouver des moyens pour se passer de Tor à long terme, c'est peut-être pas si bête que ça. Alors, on parle d'I2P actuellement, mais je peux vous dire que sur I2P, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de nœuds. Il doit en avoir moins d'une dizaine de ce que j'en vois, quoi.
Yes, ah ouais, effectivement, ça peut faire sens de se passer bah, de réseau tiers, parce que à chaque fois, il y a aussi la notion de dépendance et de surface d'attaque qu'on accroît d'une certaine manière. Donc voilà pour la présentation. Je ne sais pas déjà si vous avez déjà un avis, peut-être que certains ici ont un avis tranché pour ou contre cette proposition. Sachant qu'il faut aussi noter que du coup, comme je l'ai déjà dit, mais ça introduit quand même aussi toute la notion de versionning sur le peer-to-peer, avec dans l'idée qu'il y a ce premier pas qui est de rajouter du chiffrement non authentifié optionnel, et qu'ensuite éventuellement on pourrait ajouter aussi de l'authentification optionnelle, qu'on pourrait ajouter d'autres choses encore au-dessus en tirant parti de ce versionning sur la couche peer-to-peer. Roxy?
On ne t'entend pas.
Ah, j'étais pas sûr si c'était que moi.
Est-ce qu'on m'entend maintenant? Oui, ok, bon,
Yes.
les écouteurs sont morts. Je disais merci pour la présentation, c'est très clair. Alors moi je suis moins tech, donc c'est une question un peu plus d'utilisation et de risque. Mais du coup, là, imaginons, on a un utilisateur lambda, il a son nœud, il a connecté tous ses wallets sur son nœud, donc aussi bien un mobile que deux hardware, Letherlive, Bitbox, peu importe. Du coup, si en fait il se fait attaquer ou s'il se fait tracer ou s'il est ciblé pour être examiné, comme toutes ces transactions de tous ces différents wallets et tous ces différents softwares vont vers son nœud, tout est traçable. Comparé à la personne qui n'a pas de nœud et finalement utilise le nœud de Blue Wallet, le nœud de Ledger, le nœud de Bitbox O2, et du coup ces informations ils sont dispersées parmi plein de personnes tiers de confiance. Est-ce que finalement, c'est pas un peu con de se dire que la personne lambda qui galère et qui fait une erreur et qui te fait tourner un nœud sans être caché par Tor ou les VPN, s'expose à plus de risques que de ne pas utiliser de nœud, même si vous devriez faire tourner un nœud. Est-ce que vous voyez un petit peu là où je veux en venir?
Annie, je sais pas, tu.
Oui. Bah, ce qu'il faut bien voir, à mon avis, c'est que je dirais que pas vraiment, enfin, il ne s'expose pas du tout à plus de risques, même à moins, je dirais. Parce qu'en fait, le nœud Bitcoin, ce qu'il fait, c'est qu'il va, il récupère l'intégralité des blocs, l'intégralité des transactions, etc. Et ensuite, il va servir les informations intéressantes pour tes wallets. Mais sur l'interface peer-to-peer avec le reste du réseau, il ne va pas faire de discrimination, il ne va pas aller déjà faire un filtre en amont pour ne récupérer que les informations qui l'intéressent. Donc, du point de vue peer-to-peer, à part ce que j'ai mentionné tout à l'heure, où tu peux comme, éventuellement, en t'y prenant vraiment bien, deviner un peu quelles sont les transactions émises par un nœud, à part ça, il n'y a pas vraiment de. Je pense, à mon sens, peut-être que John me corrigera, mais je ne crois pas que tu puisses vraiment déduire d'informations particulières en réussissant à compromettre au niveau peer-to-peer un nœud donné.
Ouais, ok, ils ne seront pas capables de voir toutes les transactions que toi tu veux vraiment envoyer. Ce serait caché dans la masse.
Non, c'est ça. Ça se fait vraiment au niveau du nœud en lui-même. Et au niveau de sa. Lui, ce qu'il va communiquer avec les autres nœuds, il va tout prendre. Il va récupérer l'intégralité des blocs, l'intégralité des transactions. Et le filtrage, il va le faire lui-même en interne pour ensuite fournir les informations cool à ton wallet. Tu vois, c'est plutôt au niveau du nœud que le filtrage se fait.
Non, par contre. On peut, enfin, je pense que c'est pas complet parce que tu l'as cité un peu plus tôt dans la présentation. Lorsque tu émets une transaction sur le réseau, alors tu peux faire une analyse purement réseau. Et donc là, tu vas avoir toutes les transactions envoyées par ton nœud. Mais si en plus de ça, tu complètes par bah, une analyse complète du réseau, tu vas te rendre compte que la transaction, elle a été émise en premier par le nœud de la personne. Et donc tu vas pouvoir dire bah, cette adresse IP, ce nœud-là, il a envoyé telle transaction. Donc tu peux lier en fait une transaction à une adresse IP, donc potentiellement à une personne. Cependant, c'est quand même plus compliqué parce qu'il faut d'une part avoir un outil d'analyse sur le réseau, donc de ton fournisseur d'accès. Donc ça, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Et il faut en plus se coupler par une analyse complète du réseau. Donc tu vois, c'est possible, c'est beaucoup plus compliqué, alors que quand quelqu'un utilise le nœud d'un autre, donc les nœuds par défaut qu'on peut avoir sur nos wallets, bah, ce nœud, en fait, il est systématiquement utilisé et donc il sait d'où provient la transaction, sauf si tu es connecté via Tor, évidemment. Et il peut revendre en fait ces données. Lui, en fait, lui, il a accès plus facilement à cette information. Donc un nœud, enfin utiliser son nœud, même sans les dites précautions, sera toujours plus efficace que utiliser le nœud d'un autre.
Ouais, ok, je vois. Et du coup, je m'étais dit, c'est plus dur pour un gouvernement d'aller demander l'information à 15 compagnies internationales plutôt que d'attaquer ton provider d'Internet et te faire une attaque très précise par rapport à toi. Pour un scénario où c'est vraiment toi, c'est pas la masse hein, qui est visée. Ah, mais
Non,
ça reste quand même agréable.
c'est techniquement faisable, mais par contre, ça veut dire qu'il faut coupler à la fois une analyse réseau par FAI plus une analyse de l'ensemble du réseau Bitcoin pour que tu puisses déterminer que la transaction elle a été émise la première fois par tel nœud. Ça, il y a Monero qui met en place un mécanisme qui mitige ça, qui s'appelle Dandelion, je crois, mais qui n'existe pas sur Bitcoin.
Oui, parce que pour peut-être, je ne sais pas si c'est limpide pour tout le monde, donc peut-être ça vaut le coup de prendre un peu de temps. Mais en gros, pourquoi est-ce que John dit qu'il faut coupler l'analyse réseau avec une analyse réseau de l'ensemble de Bitcoin? C'est parce qu'en gros, les nœuds, ce qu'ils font, c'est qu'ils reçoivent des nouvelles transactions de la part de leurs voisins et ils retransmettent cette information à leurs voisins à eux pour que l'information se propage dans le réseau. Et du coup, comme vous, votre nœud, il va. Comment dire, il va répercuter quand il reçoit une nouvelle information, il va lui aussi l'envoyer à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous observerait, il n'a pas vraiment moyen de savoir si une transaction que vous propagez dans le réseau, c'est une des vôtres ou c'est une transaction que vous avez reçue de la part de quelqu'un d'autre. Mais par contre, effectivement, s'il a une connaissance assez large de l'ensemble du réseau, il est capable de voir que cette transaction-là, elle a commencé à se propager sur le réseau plutôt à partir de ce point-là. Et donc, en gros, il peut, en quelque sorte, s'il a une connaissance assez vaste du réseau Bitcoin, il peut trianguler un peu le point d'émission d'une nouvelle transaction et donc réussir à savoir si cette transaction a été émise originellement par votre nœud ou si c'est juste une transaction que vous avez relayée comme n'importe quelle transaction. Et d'ailleurs, je me demande si dans Dandelion, John, viendrait pas. Enfin, c'est pas prévu de. Il n'y a pas de discussion pour l'amener sur Bitcoin ou je rêve?
Il y avait eu, je crois, des sujets, sauf qu'en fait, il y a donc plusieurs versions de Dandelion. Et la première, en fait, ouvrait des vecteurs de déni de service qui ont été remédiés, je crois, dans la dernière version de Dandelion. Mais normalement, Dandelion ouais, est censé adresser cette problématique en faisant apparaître les transactions sur d'autres nœuds qui ne sont pas les nœuds d'origine, je pense. Rando, il n'est pas
Ok.
avec nous, mais je pense qu'il aurait pu confirmer, ajuster le propos, peut-être.
Dernière petite question de mon côté. Du coup, imaginons ça passe, c'est review. On est sur quel type d'upgrade pour que ça rentre dans Bitcoin? Je pense que tu l'avais dit rapidement, mais c'est juste c'est merge de Bitcoin. Après, on doit, c'est un soft, c'est juste un patch, c'est quoi?
C'est vraiment comment dire?
C'est
Chacun
comme
fait
une
ce qu'il veut en. Ouais,
IDP, en fait,
voilà.
c'est de l'opt-in. Donc, c'est-à-dire que tant que. Enfin, après, c'est un paramètre que tu peux forcer ou pas, mais même s'il est forcé, faut que ce mécanisme, en fait, il soit en plus de l'existant, puisque sur Bitcoin, le versionning des nœuds est assez hétérogène. Donc, il faut qu'un nœud qui sache parler de cette manière-là puisse parler avec les anciens nœuds. Donc, de toute manière, c'est forcément quelque chose d'opt-in. Donc, qui s'active en fait soit par l'utilisateur, soit par une discussion entre les nœuds.
Et d'ailleurs, c'est vraiment voilà, marqué dans la spec et traduit dans le code de l'amélioration que même un nœud qui maintenant implémente le chiffrement, enfin, je redis ce que vient de dire John, hein, mais c'est assez important, il va continuer à avoir parmi ses peers, donc parmi les nœuds avec lesquels il communique, des nœuds qui sont encore sur la version non chiffrée, pour être sûr que ça ne va pas aboutir à une. Comme on dit en français, une séparation en plusieurs sous-réseaux qu'on veut pas du tout voir arriver. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est vraiment c'est opt-in, l'utilisateur choisit et ça n'a pas d'impact sur le consensus ou général ou quoi que ce soit.
Par contre, ce qui serait intéressant de voir, et donc moi je n'ai pas regardé du tout le BIP, mais tu décrivais le fait qu'on bah, en analyse de réseau, on peut détecter facilement un nœud Bitcoin, ce qui est juste. Avec ce chiffrement, est-ce que on cache suffisamment les métadonnées ou, en fait, en gros, est-ce que on peut quand même pas déterminer en fait que c'est du Bitcoin qui transite? À mon sens, c'est difficile de complètement cacher ça. Mais du coup, je ne sais pas si quelqu'un, si tu as regardé ou pas.
J'ai regardé rapidement et je ne saurais pas dire à quel point. En gros, dans l'ambition, clairement, c'est ce qui est visé et c'est ce qui a été pris en compte dans la manière de designer le BIP. Et après, ce que je ne sais pas vraiment dire aujourd'hui, là, c'est si le code dans les faits va traduire ça en pratique. Mais dans l'idée, effectivement, c'est que tu ne puisses pas distinguer les messages. D'un truc random, voilà, complètement, enfin, pseudo-aléatoire, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est plus compliqué, quand même, de l'extérieur, de dire que ça, c'est du trafic Bitcoin, alors que ça ressemble quand même vachement à un truc aléatoire.
C'est intéressant parce que Panda, dans une autre discussion, décrivait en fait, il discutait avec ses amis, quelques-uns de ses amis qui travaillent dans l'IT, bah, qui disaient bon, bah, un petit peu de manière pédante, oui, l'État pourrait forcer les FAI à interdire ou bloquer les transactions Bitcoin, ce qui est alors possible pour les nœuds qui ne sont pas sur I2P ou Tor. Et donc, si ce mécanisme, cette nouvelle, enfin cette nouvelle, si BIP 324, en fait, est en capacité vraiment d'obfusquer bah, même l'utilisation de Bitcoin, bah, ça voudrait dire qu'on se protégerait plus efficacement encore de cette menace qui, bon, on ne va pas se mentir, elle est un peu extrême, elle est un petit peu bizarre. Mais tout du moins, ce serait quand même assez pertinent à mon sens, quoi.
Ouais, et pour préciser aussi, les données des paquets, ce sera des bytes pseudo-aléatoires. Et du coup, un attaquant, il ne pourra pas distinguer ces données-là de bytes complètement aléatoires. Et du coup, ça permet, c'est pas le scope de ce bip-là, mais après, une fois qu'on aura ces bytes pseudo-aléatoires, on peut imaginer rajouter par-dessus, simuler en fait du trafic HTTP ou SSH, ou en fait c'est simuler ces paquets qui sont en fait des paquets Bitcoin en d'autres types de paquets pour complètement obfusquer ce qu'on fait.
Ouais, ça c'est très stylé. Et il y a même aussi, bon là c'est plus de la science-fiction, mais l'idée que éventuellement d'autres protocoles qui peuvent être peut-être perçus comme subversifs pourraient implémenter ce genre de truc aussi. Et du coup, en fait, en gros, tout ressemblerait à du SSH ou du HTTP et ce serait, enfin voilà, personne serait vraiment capable, en capacité de dire ce qui se passe exactement.
Non, c'est pas de la science-fiction. Il y a déjà des mécanismes, genre pour bypasser les firewalls de Chine, il y en a qui utilisent des tunnels ICMP, donc qui sont utilisés entre autres par Ping. Mais du coup, un des pays qui voit de l'ICMP, en fait, se rend pas compte que il y a derrière du SSH, du Tor, etc. Donc, c'est pas tant de la science-fiction que ça, et il y a déjà des mécanismes
Ouais.
qui se mettent en place.
Ce que je voulais dire par science-fiction, c'est que pour pour maximiser l'efficacité, il faudrait qu'en gros tous les protocoles fassent en sorte que tout ressemble à peu près la même chose, tu vois. Et donc ça voudrait dire qu'il y a une convergence vers une manière commune de faire cette obfuscation, alors que je pense que, ben, comme d'habitude, il va y avoir 15 implémentations différentes d'obfuscation, et donc du coup peut-être que bah, si tu n'obfusques pas exactement de la même manière, tu peux extraire une signature même avec l'obfuscation. Mais même si c'est sous-optimal, c'est toujours mieux d'avoir 15 obfuscations différentes qu'aucune. Voilà, du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions. Là, ça fait déjà une demi-heure qu'on est sur ce sujet. Qui en fait, et voilà, peut-être pour conclure, cette VIP, elle m'a l'air personnellement pas forcément très controversée, notamment bah, parce qu'elle est complètement optionnelle. Enfin voilà, chaque utilisateur peut choisir ce qu'il fait. Donc je sais que Solstead, on en a un peu parlé, lui il est plutôt contre, mais après il est pas, je pense pas comment dire, il irait
Il cherche à
contre
être
vent et marée
convaincu.
pour c'est ça. Et parce qu'effectivement, il y a des, comment dire, il faut pas vendre cette bible, je pense, pour ce qu'elle n'est pas. Et effectivement, il y a pas mal de trucs que d'habitude du chiffrement permet d'éviter, comme par exemple, je l'avais évoqué au début, mais le fait de se prémunir d'une attaque man in the middle où quelqu'un pourrait venir modifier des paquets, bah ça, finalement, ça marche quand on a du chiffrement et de l'authentification, parce que comme ça, on est en capacité de se rendre compte que bah que le man in the middle, il n'a pas la bonne identité. Alors que là, si on a juste du chiffrement, bah, il faudrait un autre canal de communication avec notre peer supposé pour pouvoir établir qu'il y a effectivement eu bah, quelqu'un qui s'est mis au milieu et qui, du coup, n'a pas la bonne identité. Donc, identité au sens de, pour faire simple, de clé publique, on va dire. Et là, ça ne serait pas le cas. Là, c'est du chiffrement pur parce qu'on veut garder l'aspect vraiment anonyme et permissionless de Bitcoin, donc on ne veut pas qu'il y ait d'aspect d'authentification a priori. Mais par contre, effectivement, pour tout ce qui est contrer la surveillance étatique, la surveillance de masse, etc., bah là, ça, je trouve que ça marche plutôt bien et que, à mon sens, c'est plutôt, enfin, ça vaut le coup quoi, d'avoir ça dans Bitcoin. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à demander la parole, c'est en bas à gauche, si jamais vous voulez intervenir, vous avez envie d'apporter une remarque ou d'obtenir une précision. Et sinon, je vais faire une tranquille transition vers notre deuxième sujet, qui concerne du coup RGB. Donc, comme je l'ai présenté, en gros, c'est un protocole en surcouche au-dessus de Bitcoin pour permettre de créer des smart contracts qui soient confidentiel et scalable, donc deux choses que les smart contracts sur Ethereum ne sont pas, mais qui permettraient de faire en gros la même chose et voire plus que les smart contracts sur toutes les chaînes EVM compatibles. Je ne sais pas si Lounès, vu que toi tu étais à Paradigme, tu veux peut-être présenter rapidement RGB, présenter les nouvelles qui ont été annoncées à Paradigme.
Plutôt les nouvelles ou plutôt ce que RGB en globalité
Non, je pense les nouvelles, enfin, parce que là, maintenant, Fanny a décrit en gros à quoi ça répond. Et je pense pas qu'on ait besoin vraiment d'entrer dans tous les détails, sauf si les auditeurs veulent en savoir un peu plus. Mais
Ouais,
pour
et ben
reprendre un
du
peu.
coup, au Paradigme Bitcoin, là, à Neuchâtel, vendredi dernier, il y a Maxime Orlovski qui est le prince, j'allais dire le principal, mais le seul dev RGB, qui a fait une petite présentation rapide sur ce que c'est RGB, comment ça fonctionne, etc. Mais vraiment assez rapide. Et après, il a plutôt parlé de la roadmap. Le 13 juin, toutes les règles de consensus, etc., il y a eu la première version. Enfin, première version. Normalement, ces règles-là, maintenant, elles sont faites et destinées à ne plus bouger. Donc ça, c'était release le 13 juin. Il a aussi annoncé la release de l'interface en ligne de commande du nœud RGB pour le 1er juillet. Mais bon, on est le 3 et on ne l'a pas encore vu. J'y ai beaucoup cru parce que c'était quelques jours avant, ils ont annoncé le premier. Mais bon, c'est pas là, mais bon, ça sera là bientôt. Et puis globalement, il a un peu donné les prochaines étapes, qu'est-ce que ce serait. En gros, il a donné des dates un peu précises à mon goût. Déjà la première, ils n'ont pas trop réussi à la tenir, donc on verra ce que ça va donner. Mais globalement, courant juillet, il y a le contrat RGB20. En clin d'œil à l'ERC20 sur Ethereum pour faire des assets sur RGB qui sera disponible. Après, le mois prochain, il me semble, il y aura l'ERC20 pareil, mais sur Lightning. Et si je me rappelle bien, je me rappelle plus, bougez pas, j'ai envie de regarder ma photo comme ça. Ça sera plus clair. Hop, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Le 1er septembre, à peu près 10 des tokens dans les Lightning Channels. Et une fois que Maxime avait fini de présenter RGB, puis donner un petit peu les gros points de roadmap pour le protocole en lui-même, il y a Olga Ukolova qui a fait une présentation plutôt, elle, sur Pandora. Parce qu'en fait, eux, ils fonctionnent avec la NPDP Standards Association. Qui est une association à but non lucratif qui s'occupe de développer tout ce qui est protocole, standard, etc. Et à côté, eux, ils ont Pandora Prime, qui est en fait une boîte à but lucratif qui va proposer des produits partout RGB. Et notamment, leur premier produit, c'est des wallets RGB compatibles, des wallets RGB compatibles comme MyCitadel. Ou Bitcoin Pro. Et du coup, là, pareil, ils ont commencé à donner un peu des idées de dates de sortie des différentes versions. Du coup, MyCitadel, bah, ça va être vraiment le wallet principal d'RGB pour gérer ses assets, faire ses transactions et tout. Compatible Taproot, Lightning, tout ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'ils ont mis à peu près tout dedans. Ils ont déjà sorti une première version en mai, là, sur les desktops. Et qui est assez bien faite, qui permet de faire des multisigs avec des scripts assez puissants quand même. Et puis ils ont donné à peu près les dates de release pour les nouvelles versions qui supporteront RGB, Lightning et à peu près tout. Et ensuite, ils ont présenté Bitcoin Pro, qui est lui le logiciel en fait pour les émetteurs d'assets. C'est le logiciel qu'ils vont utiliser pour émettre des assets sur RGB, configurer tout ce qui est émission de l'asset, burn, tout ce que vous voulez. Les paramètres du contrat, en gros. Et ça, c'est cet été, pareil pour le MyCitadel RGB. Et niveau Pandora, ils ont aussi annoncé en partenariat avec Nodel, des box Mystadel, quoi.
Et du coup, juste ouais, dedans, il y a quoi? Il y aura les nœuds, des nœuds RGB dedans? Ils ont détaillé un peu ce que ça fera ou pas?
Ouais, c'est principalement le nœud RGB qui s'occupe de la validation côté client et du coup garder les états des contrats, etc. de l'utilisateur. Et puis du coup, après, avec le Bitcoin et le Lightning dans le tas.
On les aura sur Umbrella de toute façon.
Oui, bien sûr. Ah oui, parce que je ne sais pas si on l'a déjà précisé, mais la LNPBP Standard Association, ils ont aussi ils ont tout redéveloppé une implémentation de Bitcoin Base Layer en Rust. Et puis, la même chose pour LND. Enfin, pardon, pour un Lightning. Et puis, qu'est-ce que j'avais aussi? Si, ils ont annoncé du coup un des produits de Pandora, ça sera un Bitcoin wrappé sur RGB. Donc ça, on peut peut-être en discuter. Mais du coup, ça serait... enfin, tout est dans le nom, quoi. C'est un Bitcoin wrappé sur RGB avec une émission décentralisée quand même et qui permettra d'interagir avec les smart contracts directement sur RGB. Dans des DEX ou ce genre de trucs. Peut-être que vous voulez discuter de ce point parce que généralement, ça fait parler.
Oui, carrément, carrément. Du coup, ça marcherait comment? Tu as parlé d'une émission décentralisée. Qui? Quoi? Comment?
Est-ce qu'ils l'ont détaillé ou pas? Parce que...
Non, ils ont pas vraiment détaillé comment ça fonctionnerait l'émission décentralisée, mais je suppose que tu as un contrat ou qu'on. Ah, il y a deux paramètres. Que quand on voit des bitcoins sur une adresse, et ben, automatiquement, ils le transforment en assets. Je ne sais pas exactement, mais. Non,
Ouais,
ils ont pas
parce que...
ils ont pas détaillé techniquement comment ça fonctionnerait.
Ok. Je
Mais
demande parce que
ils ont
vraiment,
déjà.
l'une
Ouais.
des... Pardon. Enfin, l'un des paradigmes de base de RGB, tel que je le comprends, c'est quand même que les contrats sont vraiment... Enfin, ont un propriétaire très clair, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Très, très bien défini. Même si après, ce propriétaire peut être... comment dire, distribuer, tu vois, et ne pas être vraiment un propriétaire au sens qu'on a l'habitude dans le monde de tous les jours. Enfin voilà, à voir vraiment ce que ça va donner, ce qu'ils veulent dire par émission décentralisée. Effectivement, moi, ça fait penser à ce que tu décris. Très bien que ce soit quelque chose comme ça, effectivement.
En fait,
Mais j'ai pas là.
à la création du contrat, on peut vachement éditer quand même les droits de chaque, enfin, je vais dire entité, mais on peut vraiment préciser les droits des entités sur le contrat. Donc, ça doit être possible de s'arranger pour qu'il n'y ait pas une entité qui puisse émettre à fond, quoi. Après, peut-être que
Yes.
Julien pourra en dire plus dessus. Je vois qu'il est là.
Ouais. Et tu penses que pour sortir après, typiquement, si je veux unwrap, ça pourra être aussi, tu vois, non custodial, parce que c'est une grosse critique aujourd'hui de toutes les implémentations existantes de sidechain qui sont que le two-way peg trustless n'existe pas.
Ouais,
Je
le, en
sais pas du
fait,
tout si t'as un avis.
c'est les risques de contrepartie, en fait, ce que tu veux, qu'on aimerait
Ça,
bien savoir,
ouais.
du coup,
Bah,
comment.
je pense que oui, vu comment RGB est construit de ce que j'en ai compris, avec les soi usages uniques et comment est géré le ownership sur la chaîne, il me semble que ça va être possible. Parce que du coup, celui qui possède, enfin, comment expliquer ça? C'est le base layer de Bitcoin qui en fait défini qui contrôle quoi. Et en fait, comment définir ça? On va dire, ouais, c'est comme si ton bout de contrat, il est dans une TXO, on va dire, Et du coup, t'as les bitcoins qui vont avec. Je suppose que si tu fous des bitcoins dans un contrat, ils suivent l'UTXO au fur et à mesure des changements d'état. Et si tu veux le sortir, bah, tu les récupères. J'imagine ça comme ça. J'ai pas bien réussi à l'expliquer, mais ça doit être possible.
Vas-y, Julien, là, vas-y, hey, prends la
Non,
parole, c'est toi l'expert RGB, là.
il a la flemme, je l'ai déjà demandé.
Après, faut pas s'étonner qu'on dise de la merde sur RGB, hein, Julien.
Donc, du coup, voilà pour le Bitcoin wrappé RGB. Et par la même occasion, ils ont aussi annoncé que du coup, Pandora émettra des stablecoins sur RGB. Du coup, Bitcoin avec issuance décentralisée, le franc suisse, US dollar et euro. Par contre, ça sera centralisé forcément avec des fiat décentralisés.
Là, je suis un peu dubitatif, honnêtement, parce que autant développer des outils open source, c'est une chose, mais avoir des réserves de change pour les redeems de stablecoin, c'est un autre job. Donc après, bah, ça viendra peut-être pas tout de suite, mais enfin, voilà, c'est quand même une activité à part entière, quoi. Alors autant qu'il le fasse sur W, sur un wrapped Coin, on peut le comprendre, mais tu vois ce que je veux dire?
Oui, je comprends carrément. C'est pas du tout la même. Ça fonctionne vraiment pas du tout pareil, quoi.
Je dis peut-être n'importe quoi, mais je pense pas que ce sera à eux qui va s'occuper de vraiment la partie, le côté fiat de cette partie-là. Je pense qu'ils seront là, bah, ils amènent la solution pour le côté, entre guillemets, token, tu vois. Mais enfin, je pense que c'est pas pour rien qu'à la base, vraiment, il y avait Bitfinex. Alors, ça a été compliqué après. Donc, je ne sais pas du tout si ce sera toujours Bitfinex qui ferait cette partie du business ou s'il faudra un nouvel acteur ou si même je dis n'importe quoi et que ça sera eux qui s'en occuperont aussi. Mais effectivement, ça me paraît tellement être une activité complètement différente que ça m'étonnerait que ce soit eux qui la prennent en charge aussi.
Ouais, et je vois que Julien nous a rejoint. Et juste avant de lui
Oui,
donner la
je suis
parole,
là.
ouais, juste avant de te donner la parole, je vais juste préciser les fameuses release dates qu'ils annoncent pour ces choses-là. Du coup, pour le Bitcoin wrappé, ce sera plutôt automne 2022. Pareil pour l'euro, stablecoin euro sur RGB. Et puis le dollar et le Swiss franc, ce sera plutôt. Ah non, le dollar, c'est cet été. Donc bon, on sait à quoi s'attendre avec RGB, le Very Soon TM, on connaît. Mais il fallait quand même les dire. Vas-y, Julien.
J'ai entendu mon nom, donc j'ai réagi sur mon téléphone, donc ça, grosse chance que ça bug. En fait, c'était quoi la question? Parce que j'ai vu que ça parlait de un peu de RGB, la technique, mais aussi de ce qu'ils veulent par rapport justement aux outils financiers et plus précisément comment ça fonctionne le wrapped BTC, Bitcoin, c'est
Ouais,
ça?
voilà, c'était surtout ça notre question. Comment ils peuvent faire une issuance décentralisée pour ce Bitcoin wrappé?
Alors en fait
Et son
ça
risque de contrepartie aussi.
en fait c'est pour ce cas précis où il y a du Bitcoin qui rentre en jeu, le fonctionnement ça serait un peu de manière fédérale, c'est-à-dire que il y a une espèce de contrat qui fonctionnerait dans l'idée comme une, je sais pas, une association, comme une espèce de petite fédération entre personnes, et donc les gens y mettent, ils peuvent y participer en y accrochant les bitcoins, et en fait ça fonctionnerait d'ailleurs un peu comme Liquid, c'est-à-dire que tu peux peg in, et pour peg out, il faut que ça, la fédération soit d'accord avec ça. Mais après, c'est pas plus compliqué que ça. En fait, ils avaient prévu ça, parce que le RGB, il y a les RGB 20, c'était l'équivalent du RC 20, donc l'issue du Bitcoin, et il y avait RGB 21, il y avait différents numéros pour ces différentes choses-là. Après, c'est des objectifs à atteindre. C'est vrai que ça serait peut-être pratique d'avoir du Bitcoin sur RGB, donc il faudrait le wrapper dans RGB. Mais attendons de voir que ça se sorte et que ça fonctionne un petit peu avec Lightning, parce que, comme l'avait expliqué
Lunes au début, ils ont sorti une version bêta qui fonctionnait avec RGB20 il y a pas mal de temps. Ils annoncent toujours des dates qui sont jamais respectées. De toute façon, ils le disent eux-mêmes et dans l'espace, tout le monde fait un peu pareil. On va pas parler de RGB 2.0, mais voilà, moi je suis devenu patient, j'attends, je sais que ça va sortir parce que c'est des gens qui vont jusqu'au bout et de toute façon ils vont pas lâcher le truc en cours de vol, ils sont beaucoup trop avancés pour ça là-dessus. Mais après, voilà, c'est beaucoup d'annonces pour justement intéresser les gens, les investisseurs ou les gens qui veulent connaître la technologie aux diverses possibilités que ça peut faire. Voilà, je suis un peu comme Lounès, j'attendais et en fait ça a un peu fait pouf. Donc
Ouais, il faut
je
pas quand même
re... Ouais, non, mais oui, ça
à
fait.
annoncer le 24 une sortie le premier et même pas le tenir les gars une semaine avant.
Ouais, bah.
Je suis sûr
C'est
au
pour.
fond ils aiment ça.
Oui, bah oui, c'est clair. Mais après, voilà, peut-être pour Surfing Bitcoin ou Baltic Manager, de toute façon, c'est en même temps. Mais voilà, après, j'ai pas été là poser la question de when release, parce que bon, je l'ai déjà posé assez souvent. Mais voilà, donc moi, de toute façon, après, ce qui m'intéresse, c'est plus la technique, justement, ce que ça apporte au niveau de la vie privée, etc. Tu sors complètement du contexte sur chaîne, etc. La partie Lightning, j'essaie de voir ce qui se passe. S'il y a des interopérabilités avec Taro, mais ça aussi, Taro. Heureusement, il n'a pas donné de date, le rose beef. Mais voilà, je suis plus sur sur ces trucs techniques après, à savoir si dessus il va y avoir du shitcoin CBDC, du shitcoin BTC Wrap, du shitcoin je sais pas quoi. Bon, bah oui, je sais que c'est possible, mais bon, ça sera possible quand ça sera sorti. Mais après, je l'ai vu. Je l'ai vu, il y a eu les tests, là, il y a eu la bêta, machin. On a quand même essayé tous ces petits cas d'utilisation-là. Donc, c'est des choses qui marchent, mais après, voilà, Maxime cherche à avoir quelque chose qui s'approche beaucoup de la perfection. Tant mieux pour lui, puis bon, tant pis pour les dates. Mais après, voilà, le truc, c'est que c'est un peu ce qu'il expliquait, c'est une fois qu'on lance le protocole de cette manière-là, c'est un peu figé, c'est un peu ossifié. Et c'est exactement le problème qu'il y a par rapport à la version bêta ou aux premières versions, qui sont plus vraiment compatibles. Donc, ça l'embêterait de devoir forquer tout le truc. Enfin, forquer, entre guillemets, dans le contexte RGB, donc c'est juste un fork. Mais ça l'embêterait de devoir tout changer alors que voilà, les spécifications sont correctes. C'est tout. Mais après, je
Ok.
suis d'accord avec toi, Lunès. Hein, il faut qu'il se peut, faudrait acheter des cravaches. Et donc, on s'achète tous une cravache. Et quand on les voit surfer, on tape dessus avec nos cravaches. Comme ça. En priant, on danse autour d'eux et on fait RGB. Voilà.
Ouais, et autre question, tu sais si c'est Pandora qui gérera la partie fiat ou alors ils vont passer par de plus grosses institutions pour ça, pour les stablecoins
Bah,
en Suisse, euro, USD, tout ça.
je pense qu'il préférerait passer par des partenariats. De toute façon, pour faire ces choses-là, il y a besoin d'avoir des contreparties, des réserves dans ces organismes que c'est difficile pour des entreprises d'y toucher. Donc, tu es obligé de faire des partenaires. C'est pour ça. Après, oui, que je t'avais entendu parler de Tether et donc de l'histoire qu'ils avaient eue avec Tether. Mais bon, il y avait eu un peu de popcorn avec John Carvalho. Mais oui, pour l'USD, ils veulent faire du USDT. L'USDT, déjà, en fait, l'accord avec Tether. Et Tether sont toujours OK pour mettre leur Tether sur leur USDT sur RGB. Après, je ne sais pas les autres. Je ne sais pas s'ils font des choses avec du USDC. Peut-être, mais après, je pense pas qu'ils vont pas. Après, je suis pas dans leur tête, hein, puis je suis pas dans leur stratégie commerciale surtout. Mais je vois peu l'intérêt pour eux de s'embarquer là-dedans, alors que c'est pas du tout ce qu'ils font. C'est des cypherpunks qui sont beaucoup plus sur des questions de protection de vie privée et pas forcément des questions de faire des pirouettes marketing parce que tu t'appelles je ne sais pas qui, là, d'où quoi, mais que tu as perdu l'argent de tous tes clients, ça ne les intéresse pas ça. Donc je pense pas qu'ils le fassent.
Ok, ouais, ça fait sens. Et du coup, il reste encore deux trucs qu'ils ont annoncés. Ouais, ils ont carrément. On les arrête jamais. Trop d'idées, beaucoup d'ambition. Ils ont aussi annoncé un exchange, RGBX, de
Ouais.
Tallinn, où du coup, c'est un exchange RGB enabled. Pardon, je dis n'importe où. Et où tu peux échanger des assets, trader, etc. Sans password, login, avec des public keys, tout ça. Et autre truc, exchange centralisé, du coup, il me semble. Et dernier truc, des chats et paiements dans MyCitadel qui marchent par-dessus le réseau Lightning.
Oui, bah, en fait,
Quoi, j'ai pas compris ce que moi t'as dit des.
Du chat et du paiement dans MyCitadel, le wallet.
Oh non, pas le chat Lightning, c'est pas possible.
Ah ouais,
Enfin,
c'est. Ouais, voilà.
on sait pas.
Non, mais il y a des choses qui peuvent être très utiles avec Lightning au niveau du chat. Après, moi, je suis pas pour du tout non plus. Hein. Mais bon, après, c'est
Non,
toujours.
non, c'est une fausse bonne idée.
Voilà, c'est une fausse bonne idée. Mais bon, après, il y a des gens qui aiment bien loller 5 minutes en mettant des satoshis dans leur message, je sais pas quoi. Pour ce qui est de l'échange RGBX.io, on avait déjà eu une avant-première à la sortie de la bêta. Ils nous avons montré un peu le fonctionnement, mais c'était le fonctionnement de comment fonctionnait l'échange. Donc, c'était un échange décentralisé, c'est-à-dire que c'est plutôt une marketplace où tu vas te trouver des offres et donc tu peux t'y connecter pour répondre aux offres. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est fait exprès, mais en fait, tu es obligé de dévoiler des contrats et des choses. Dans cet échange, et c'est tout à fait normal parce que pour pouvoir vendre un token, il faut bien le dévoiler. Mais il y a des gens qui posent des questions. Ah oui, mais vous avez un échange, mais comment ça? On dépose des informations sur le contrat, donc ça ne maintient plus la vie privée. Mais oui, quand on veut vendre quelque chose, il faut en faire la publicité, sinon ça ne marche pas. Donc il y a ça. Donc ça, on avait déjà eu la démonstration. Le rajout de pas de login un peu à la Doster et compagnie. Bah, je pense que c'est ça ce sur quoi qu'il bosse pour le rendre accessible et permissionless. Après, sur le chat, je n'ai pas été regardé, pour être tout à fait honnête, parce que c'est comme c'est un sujet qui ne m'intéresse pas, je n'ai pas été voir.
Ok, bah merci. Et quand tu as des plans bêta comme ça, il faut me mettre dans la boucle. Hein.
Oui, bah
Après,
c'est.
vous les faites en live, non?
Oui,
En
bah,
workshop et
voilà.
tout. Ouais, c'est pour ça.
C'est ça. Moi, j'ai fait les retweets à l'époque quand c'était le moment où ça sortait toutes ces choses-là. Donc maintenant, ils sont dans le dur du travail. Et puis bon, après, ils ont un karma de merde. Hein. Ils tapent la guerre dans notre pays, une collaboratrice qui est morte, enfin, bon, c'est l'autre qui se pèse le bras. Enfin, bon, c'est un peu. Ils ont un mauvais karma pour l'instant. On espère que ça ira mieux l'année prochaine. Mais l'année précédente, quand on a tout sorti les trucs, moi, j'avais filé tous les liens, tous les retweets. Mais bon, on en reparlera à Surfin s'il faut faire un contenu français sur le sujet ou pas, un jour ou l'autre.
Trop cool. Bah merci beaucoup Julien pour ton temps.
Merci.
N'hésitez pas si quelqu'un a des questions, d'autant qu'on a Julien là, voilà, qui est bah, je
Ouais,
pense en francophone. Ah ouais, je t'en prie, Doc, effectivement, j'avais oublié.
Salut. Ah non, pas de souci. Bah justement, moi, j'en ai une petite par rapport à la vie privée. Et donc, Julien évoquait que Tether arriverait certainement sur RGB. Est-ce que ça irait pas un petit peu à l'encontre Bitcoin? Parce que du coup, je ne sais pas si c'est techniquement faisable, mais Tether, en fait, sur n'importe quelle blockchain sur lequel ils émettent leurs stables, ils sont en capacité de geler les stables sur n'importe quelle adresse. Est-ce que du coup, ça serait aussi réalisable sur RGB? Et est-ce que ça irait pas du coup à l'encontre un petit peu du côté privacy et trustless, permissionless, on va dire, de l'utilisation de la blockchain et des tokens associés?
Oui, c'est vrai. Et non, ils peuvent pas geler. Mais ils sont au courant. Hein. Ça a été un peu dit dès le début, quand il y avait les premiers trucs, il n'y a pas de négociation sur ce genre de choses. Donc s'ils veulent utiliser RGB, ils l'utilisent dans le cadre de RGB, c'est-à-dire bah, une fois que les choses sont issues et qu'elles sont donnée à quelqu'un, donc la personne a la propriété, elle en a la propriété entière. Elle a l'usus, le fructus, l'abusus, elle a tout, quoi. Donc il n'y a pas moyen de geler.
Ok, ils n'ont pas possibilité de rajouter des lignes de code, je veux dire, ce ne sera pas du Turing 100% complet, quoi.
Non, 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 c'est, justement, ça, le protocole est fort par rapport à ça. C'est qu'il peut, la vérification côté client permet de justement ne pas avoir ce problème-là.
Ok, d'accord. Bon, merci bien pour les infos.
Avec plaisir.
Top. Bah voilà, n'hésitez pas à intervenir si vous reste d'autres questions, d'autres remarques, etc. Et sinon, on va enchaîner tout doucement vers le troisième sujet qui concerne donc l'immuabilité sur Bitcoin, vaste sujet, et au travers donc d'un rapport récent qui avait été commandé par la DARPA et qui est, qu'on va pouvoir critiquer sur plein de points, je pense. Voilà, et puis pour ceux qui sont inquiets par rapport à RGB, j'ai envie de, quand même, par rapport à la date de release, j'ai envie de citer Christine Lagarde, it will come in due time, voilà, soyons patients et ça viendra un jour. In due course, oui, pardon. super, ben, on va enchaîner, du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions sur RGB. Du coup, pour le contexte par rapport à ce petit rapport, donc c'est un rapport qui a été commandé par la DARPA et qui a été réalisé par Trail of Bits, donc qui est une société spécialisée en sécurité informatique, on va dire, ce que j'ai compris plus ou moins de ce qu'ils font. Et donc, ils ne sont pas forcément pas du tout spécialisés sur toutes les questions blockchain, Bitcoin, etc. Donc, ils arrivent un peu avec un œil extérieur, ce qui est en fait, moi, je trouve qu'il est très bien en général. Et d'ailleurs, finalement, le rapport de la DARPA, moi, je trouve ça cool. J'ai envie de dire merci parce que si la DARPA a envie de payer pour qu'on se rende peut-être mieux compte des faiblesses éventuelles de Bitcoin, ben, tant mieux. Mais le problème, c'est qu'effectivement, le rapport présente plein de choses comme étant des gros problèmes, des vulnérabilités, alors que c'est des choses qui sont discutées depuis... depuis des années et qui en fait ne s'avère pas être de si gros problèmes que ça, au moins sur Bitcoin, parce qu'effectivement, on peut arguer que certaines des critiques formulées sur pourraient s'appliquer éventuellement sur d'autres chaînes. Et parfois, quand même, pour rendre à César ce qu'est à César, peuvent s'appliquer en moins en partie sur Bitcoin aussi. Mais voilà, toute la question, c'est à quel point est-ce que c'est grave, entre guillemets. Pour contrebalancer ce rapport, et donc il y a, je ne sais pas si Lounès, tu l'as plus facilement que moi sous la main peut-être, il y a aussi Swan Bitcoin qui a du coup publié une réponse en fait à cette étude où ils reprennent point par point les éléments principaux du rapport en essayant d'y répondre et de voir un peu si certains éléments sont effectivement problématiques ou pas. Voilà, ouais, alors je sais pas si... ouais, tu l'as mis. Génial. Hop. Top, merci. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose sur la présentation ou.
En très large, alors c'est assez intéressant, mais par contre. C'est, enfin, il y a certains trucs qui sont quand même assez, qui sont assez étranges. On a discuté un petit peu entre nous où il parle. Alors, il est vraiment très technique hein, ce rapport, et il décrit notamment l'impact de la latence du réseau et l'impact que peut avoir la latence du réseau sur la probabilité de faire un fork et donc de mener une attaque à 51% à moindre coût. Et donc, il y a un petit schéma à l'intérieur où on voit qu'avec un certain nombre de secondes de latence supplémentaire, l'attaque à 51% baisse, le seuil baisse drastiquement. Et donc, ça appuie sur un autre rapport qui n'était pas accessible, même pas par achat, quoi. Donc, il y avait des éléments qui posaient quand même un certain nombre d'interrogations. Ce qui posait aussi comme interrogation, c'était la centralisation du code et donc des vulnérabilités qu'il pourrait avoir dans le code. Et j'ai envie de dire, bah, comme n'importe quel développement, enfin, c'est de l'ingénierie logicielle, je veux dire. S'il y a des bugs, bah, ça ne fonctionne plus. Et également sur de la cryptographie. Donc, je vous invite à lire vraiment le rapport et de lire donc la réponse de Swan Bitcoin, qui essaye de répondre un peu point par point aux éléments, où en fait, il y a des choses qui sont de fait vraies, mais qui ne sont pas forcément relevantes. Et après, c'est la question toujours de dire, est-ce que Bitcoin est invulnérable? Non, mais par contre, est-ce que c'est le plus, enfin, est-ce qu'il est très résistant? Oui. Donc, c'est toujours un petit peu le biais, comment on appelle ça là, le biais du nirvana, dans le sens où il dit, faut que ce soit parfait ou rien du tout. Donc, le rapport me fait un peu penser, me fait un peu penser à ça, quoi.
Carrément. Yes. Bah, merci. Si on peut peut-être essayer peut-être plutôt que de prendre le rapport dans le sens de l'articuler différemment, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même il y a quelques en gros grandes catégories d'attaques qui sont imaginées dans le rapport. On peut commencer par exemple par les attaques type Eclipse, puisqu'on en a déjà parlé, où l'idée c'est qu'en gros, vous allez réussir à créer plein de nœuds Bitcoin. Donc des nœuds Bitcoin, c'est des nœuds en l'occurrence qui vont pas être des nœuds qui vont miner. Donc c'est des nœuds, vous pouvez en lancer 50 avec un coût marginal assez faible. Et donc du coup, vous pouvez en créer plein. Et donc effectivement, il n'y a pas vraiment de protection civile au niveau des nœuds Bitcoin qui ne minent pas. Et donc vous pouvez, si vous faites bien votre coup, éventuellement réussir à faire en sorte que le nœud d'une cible soit uniquement connecté en peer-to-peer à vos nœuds à vous, et donc vous pouvez contrôler les informations que ce nœud va recevoir. Et donc, par exemple, c'est une attaque qui peut être faite contre des pools de minage. En ciblant spécifiquement les nœuds qu'utilisent les pools de minage pour collecter les transactions, on peut réussir à ne plus rien leur envoyer, ou bien leur envoyer des trucs un peu bidons, ou agir par ce biais-là. Et c'est présenté par les auteurs comme quand même, enfin, c'est l'impression que j'ai en lisant le rapport, comme quelque chose qui est très facile à faire et qui va marcher sans problème, contre lequel le pool ne va pas réagir. Et donc, du coup, une fois qu'on a réussi, ben, c'est bon, c'est plié, Bitcoin is dead et YOLO. Alors que dans les faits, pas du tout. D'une part, moi, ça ne me paraît pas si facile que ça à faire parce que. Bah, les pools qui existent, bah, leurs nœuds, ils sont déjà connectés, ils sont déjà bien connectés à pas mal de peers différents. Et il y a vraiment une asymétrie très importante parce qu'il suffit qu'il y ait un peer auquel ils soient connectés qui est honnête pour que l'attaque, elle soit complètement inefficace.
Et
Donc, il faut.
probablement que les pools de minage sont connectées également entre elles. Parce que, en fait, la connexion, elle se fait automatiquement. Elle est faite de telle manière qu'elle se connecte à énormément de sous-réseaux différents pour éviter une attaque via le réseau. Mais on peut également faire de l'ajout manuel. Et je pense que quand tu es un pool de minage, tu as intérêt à te connecter manuellement à d'autres pools de minage. Bah, ne serait-ce que pour recevoir rapidement les blocs et pour pouvoir repiquer le travail, recommencer le nouveau travail quand un nouveau bloc a été émis. Donc, ils
Clairement.
sont à minima très connectés entre eux. Ils ont un intérêt objectif à le faire. Donc, faire une attaque Eclipse contre un pool de minage, ça me paraît pas, vraiment, enfin, extrêmement difficile à faire. L'attaque Eclipse, elle est plutôt en général utilisée pour attaquer des nœuds plutôt particuliers, voire de commerçants, ce genre de choses. Et ça reste très, très difficile à faire, quoi, faut pas croire. Et c'est plus facile à faire sur Tor hein, que sur un réseau ClearNet. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est connu hein, et on ne le découvre pas, quoi, je veux dire.
Clairement, oui. Et d'autant que la cible qui est désignée ici, qui est les pools de minage, on comprend qu'elle est choisie par les analystes là, du rapport parce que effectivement, ça serait là où il y aurait un impact vraiment potentiellement systémique sur le réseau si c'était possible. Mais en plus, ça ignore complètement le fait que bah, les mineurs, ils se connectent pas entre eux pour la propagation des blocs uniquement par le biais du réseau peer-to-peer Bitcoin. Ils ont aussi des réseaux dédiés, bah, comme par exemple Fibre. Donc, ce n'est pas la fibre qui est le truc qui vient après la DSL, c'est vraiment un
La
peu
fibre optique, tu
différent, qui est un
voulais dire.
réseau en gros. Voilà, ce n'est pas la fibre optique, c'est un réseau qui s'appelle Fibre aussi parce que ça permet de faire un petit jeu de mots, mais qui en gros est un réseau qui est conçu pour la propagation rapide de blocs et qui est utilisé notamment, si je ne dis pas de parler de bêtises, par les mineurs pour justement avoir le moins de latence possible dans le fait d'apprendre qu'un nouveau bloc a été trouvé. Parce qu'ils ont besoin, quand un nouveau bloc valide a été miné, de tout de suite être au courant aussi rapidement que possible pour pouvoir passer au suivant. Et donc, ils ont ce réseau. Qui est un réseau différent du réseau Bitcoin peer-to-peer et qui leur permet ben, d'être au courant de ces choses vraiment le plus vite possible. Et c'est là aussi que l'argument de propagation que tu évoquais, John, là où ils ont observé que, donc d'après eux, les temps de propagation qui sont ceux du réseau peer-to-peer du coup Bitcoin font que pour de vrai, on a un hash rate réel qui est plus vers 40, enfin, qui est vers 98% du hash rate observé. Mais en fait, il est, à mon avis, rendu plus ou moins caduque si tu as suffisamment de mineurs qui utilisent des réseaux de communication et de propagation des blocs rapides comme Fibre, plutôt que d'utiliser uniquement le réseau de propagation peer-to-peer Bitcoin. Donc, pour ce côté-là, ça donne un peu l'impression ben, on a débarqué, on a fait une analyse qui, effectivement, est poussée. Voilà, on voit qu'ils ont voulu faire les choses bien, mais en fait, qui manque un peu Bah, la biblio, quoi, le fait d'être conscient que c'est des trucs qui sont pas nouveaux, que ça fait des années qu'il y a plein de gens qui en discutent, et que bah, ce problème-là, il a déjà été analysé, il y a déjà une réponse, alors qui est dans certains cas partielle, et effectivement, il y a des cas où ils mettent le doigt sur quelque chose qui est en train d'être amélioré, typiquement l'absence de chiffrement dans la communication au niveau des pools, ça, c'est Stratum V2, quoi, qui corrige pas mal de trucs et dont on a parlé déjà. Plusieurs fois ici. Donc c'est, on voit enfin, clairement, je pense que le travail a été fait de manière consciencieuse parce qu'il y a certains points où ils visent juste, puisque c'est des choses sur lesquelles les Bitcoiners sont en train de travailler actuellement. Mais il y a des points où bah, ils n'ont pas peut-être suffisamment creusé ce qui avait déjà été fait et ce qui est déjà connu. Alors après, je ne sais pas à quel point c'est facile de trouver des informations parce qu'il y a le côté un peu éparpillement. Mais voilà, Roxy.
Ouais, merci pour tout. Je me posais la question du coup, est-ce que tu sais si du coup ils parlent de Stratum V2 et des solutions en footers, en notes ou en mode amélioration à venir? Et deuxième question, est-ce qu'ils ont parlé avec des experts de l'industrie? Parce qu'ils l'ont fait de leur côté, c'est très bien, au moins c'est impartial. Mais derrière, il y a plein de corps dev ou de gens qu'ils auraient pu contacter. Et comme tu le dis, toutes les ressources sont déjà un peu là, mais éparpillées. Donc est-ce qu'on sait si ils ont parlé à des gens de notre industrie ou l'ont vraiment fait de leur côté sans nous?
Alors, sur
Non
StratumV2.
et non.
Non,
Vas-y,
non,
John.
merci.
Ça se ressent d'ailleurs. Il y a par exemple, il cite le fait que le réseau parce que, enfin, est peu décentralisé par rapport au nombre de pools de minage. Donc, il en cite 4. En éludant, peut-être parce que, en fait, justement, c'est des sujets qui n'ont pas été, à mon sens, suffisamment creusés. Ce qui est intéressant à voir, c'est à la fois le nombre de pools de minage, mais également comment, enfin, d'où provient le hash rate, puisque l'idée quand même des pools de minage, c'est qu'un mineur individuel ou même une ferme de minage, elle peut relativement facilement débrancher son ou ses ASIC et se brancher sur une autre pool de minage ou sur une toute nouvelle pool de minage. Et ça, il n'y a pas besoin d'ingénierie on-chain ou quoi que ce soit, c'est le fonctionnement le plus simple du monde. Et donc les pools de minage, elles sont de facto en concurrence. Et le paysage des pools de minage actuels ne présage pas le pool de minage dans quelques années. Et d'autant que les pools de minage, ils ont. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent des transactions dans les blocs. Ils ne peuvent pas rajouter des règles. Pardon. Ils ne peuvent pas rajouter des règles comme ça dans le protocole. Tout au plus, il y a un sujet, entre guillemets, d'inquiétude, c'est de pouvoir faire un soft fork notamment de censure. Ça, c'est des choses qui sont identifiées. Mais enfin, voilà, ils appuient sur quelque chose qui est connu et en fait, ils surévaluent en fait la problématique apportée par les poules de minage. Et ça, encore une fois, enfin, c'est voilà, ils mettent vraiment comme si c'était quelque chose d'extrêmement important, un aspect de centralisation, alors que on est complètement le côté, enfin le. L'état d'esprit bah, des gens qui sont skin in the game dans Bitcoin, quoi.
Ça leur permet peut-être après de dire Bitcoin doesn't work, we need to fix it, CBDC.
Après, j'ai une question pour moi. Est-ce que si ils avaient vraiment trouvé une vulnérabilité importante, ils l'auraient disclose dans le report? Moi, je sais que je ne l'aurais pas disclose. Donc après, voilà.
Sont pas allés
Non mais
vraiment dans le détail
ouais.
parce qu'ils citent par exemple des risques de bugs dans le logiciel, ce qui est oui, enfin dans l'absolu, on peut très bien, on a des bugs qu'on connaît d'ailleurs dans le logiciel et qui devront être corrigés d'ici là, mais ils vont pas jusqu'à analyser le code ou voilà, ils voient en fait, ils voient vraiment des grands ensembles et en gros, c'est tout ce qui a été vu. Et à mon sens, alors je suis peut-être naïf, mais. Ils vont pas trop, hormis s'ils regardent le code et qu'ils regardent enfin voilà une vulnérabilité qui n'aurait pas été connue, mais ils vont dans les modèles de menaces, ils vont pas en découvrir de nouveau quoi.
Guillaume, si jamais ils en ont trouvé une, au meilleur acheteur, ils la vendent et Bitcoin c'est mort. Hein. Ils vont pas gentiment nous la patcher. Enfin, je pense que tu t'en doutes et tu sais que c'est ça la réponse.
Ouais, mais c'est toujours pareil. Tu sais, il y a des gens qui découvrent des soi-disant vulnérabilités. Il y avait un hacker écolo qui pensait pouvoir DDoS le réseau Bitcoin en ajoutant des fausses transactions dans le réseau. Bah, enfin, si c'est facile, bah, faites-le. Je veux dire, c'est le hacker écolo. Bon, voilà, faites-le. Il n'y a pas de souci. Hein. À côté de ça, tu as des grands groupes de cybercriminels qui ont peut-être des intérêts à gagner beaucoup d'argent en hackant Bitcoin. Et Bitcoin, il vit toujours. Donc, voilà, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, le truc, il est complètement ouvert. Tout le monde peut libre de l'attaquer à n'importe quel moment. Et malgré tout, le truc, il survit. Donc, c'est qu'au bout d'un moment, on se dit, il n'y a pas de truc évident à trouver, quoi.
Carrément. Ben voilà, moi je pense aussi effectivement. Ben je pense que de toute façon, Guillaume, c'est un peu par provoque et pour faire l'avocat du diable, comme tu le fais si bien à chaque fois que tu dis ça. Mais effectivement, Bitcoin, c'est le plus gros honeypot monétaire et financier en existence aujourd'hui. Donc, ben, s'il y avait une vulnérabilité à l'instant où elle est trouvée, elle est exploitée, il y a des chances. Donc voilà, ouais, pour les attaques Eclipse. À noter aussi que, comment dire, si on arrive à éclipser soit un mineur, soit un nœud, par exemple le nœud d'un marchand, concrètement, ben, y a deux grosses choses qu'on peut faire, à mon sens. Peut-être que si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à intervenir. Mais soit on peut lui couper l'accès à l'information et donc ne plus rien lui dire, soit on peut lui filer de fausses infos. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un nœud, et c'est là aussi le génie peut-être de la, enfin l'un des génies du fonctionnement du protocole de Bitcoin, c'est que un nœud va toujours suivre la chaîne avec le plus de travail. Et donc, si on veut fournir de la fausse info et donc par exemple une fausse blockchain à un nœud qu'on éclipse, il faut quand même faire le travail parce que tu peux pas le fake quoi, tu peux pas faire du faux travail. C'est même pour ça que Satoshi a utilisé ça a priori, l'une des raisons en tout cas. Et ça, complètement, il passe complètement à côté dans l'étude, effectivement, et donc c'est justement noté par Swan Bitcoin dans leur réponse, qui est que bah, même si tu fais ça, bah, tu peux pas vraiment filer de fausses infos à la personne que tu éclipses, parce qu'il faudrait quand même que tu refasses le travail. Ouais, Guillaume?
Et puis, de toute façon, on en a déjà pas mal discuté entre nous. Et John, l'informaticien, confirmera. Mais en général, dans un système, Le moyen le plus simple de trouver une faille, c'est souvent les humains, quoi, nous. Et je pense que pour Bitcoin, c'est exactement la même chose. Et je pense qu'au-delà des modèles de menaces qu'on a identifiés, qu'on n'avait pas identifiés, etc., le modèle le plus simple aujourd'hui de menace, ça reste quand même la communauté, ça reste quand même aujourd'hui la gouvernance. Et on en a déjà parlé plein de fois entre nous, mais c'est juste pour rappeler que voilà, avant tout, Bitcoin, au-delà du code, au-delà des nodes, etc., bah, c'est nous. Et donc, tant qu'on reste soudés, tant qu'on adhère tous aux mêmes idées, bah, le protocole, entre guillemets, il reste défendable sur le long terme, quoi. Et je pense que c'est ça le plus important.
Clairement. Et merci d'ailleurs, tu me fais une super transition parce qu'effectivement, c'est l'autre grande catégorie d'attaques pour moi qui sont mises en avant dans le rapport, qui est que bah, finalement, il y a quelques développeurs qui pourraient très bien pousser des mises à jour et changer complètement, bah, par exemple, les définis, enfin, certains fonctionnements du protocole. Et donc, en fait, effectivement, ils pourraient altérer l'immutabilité des transactions, ils pourraient changer des choses en changeant certaines définition dans le protocole, on va dire ça comme ça. Mais en fait, c'est voilà, effectivement, ils ignorent complètement toute la dynamique sociale, toute la dynamique communautaire, politique, au sens d'organisation de la cité, qu'il y a entre les utilisateurs de Bitcoin. Et voilà, c'est pas parce qu'un développeur pousse une update que moi je vais la run sur ma machine. À l'inverse, c'est pas parce qu'un développeur Bitcoin me dit que je ne devrais pas run cette version-là de Bitcoin parce qu'il n'était pas d'accord que moi je ne vais pas le faire. Donc ça s'est déjà vu par le passé, des gens qui font tourner bah, voilà, le software de je sais pas moi, de Luc Dash, alors qu'il y a d'autres gens qui leur disent qu'il ne faudrait pas. Et donc même s'ils sont en minorité, bah, ils font tourner le logiciel qu'ils ont envie de faire tourner. Et ça, c'est complètement ignoré. Dans le rapport, alors que voilà, c'est un des éléments cruciaux à comprendre, à mon sens,
C'est
pour
d'ailleurs un truc.
percevoir l'aspect social.
D'ailleurs, c'est un truc qui est vraiment, je pense, sous-estimé complètement parce que on avait eu une conversation avec Abdel, développeur Ethereum, enfin plutôt ouais, chez Starknet, je crois, où, c'est difficile de comprendre l'adhérence. J'arrive pas à trouver mes termes, mais la capacité en fait de la communauté Bitcoin à toujours regarder d'un œil très critique chaque mise à jour. On en a parlé là sur le dernier BIP en début de Space. Et on a tendance à dire oui, Ethereum, Bitcoin, etc. Enfin, il y a le même niveau de décentralisation, etc. C'est pas juste rien que, encore une fois, l'année dernière, pour Taproot, rien que pour parler de la méthode d'activation, la communauté était déjà à feu et à sang. Il y a déjà des personnes qui sont extrêmement déçues de la méthode d'activation qui avait été utilisée. Et tant qu'on n'est pas dedans et qu'on ne l'a pas vécu, on n'a pas eu les débats dessus, on ne peut pas s'en rendre compte. Donc on se doute bien qu'une étude faite d'un œil extérieur ne pourra jamais se rendre compte de l'état d'esprit des gens qui animent Bitcoin, quoi.
Ouais, alors que par contraste, sur Ethereum, c'est vraiment, on est beaucoup plus dans une approche où c'est les devs qui poussent la mise à jour et si tu fais tourner un nœud, il faut que tu l'acceptes parce que sinon, bah, tu seras rejeté du consensus parce que bah, c'est un fonctionnement uniquement par hard fork. Puis après, il y a aussi toutes les bombes de difficulté, etc., qui, elles,
Ouais, j'allais
vont
citer
plutôt
les bombes de
à.
difficulté
Voilà.
qui te forcent de toute manière à faire la mise à jour. Sur Bitcoin, on dit il n'y a rien qui oblige à faire la mise à jour, mais il vaudrait mieux les faire. C'est quelque chose quand même le profil des gens qui font tourner les nœuds entre Bitcoin et Ethereum est pas du tout le même.
Comme World of Warcraft.
J'ai pas trop la ref, je vais peut-être me
Euh,
faire
en gros,
juste décaler. Ouais.
la toute première version de World of Warcraft peut toujours tourner sur un très vieil ordi et ils n'ont jamais augmenté les besoins informatiques minimum pour être sûr que les mecs qui ne peuvent pas se racheter de PC 20 ans après peuvent toujours faire tourner le premier WoW. Et c'est un des seuls MMO ou un des seuls jeux qui a vraiment volontairement toujours gardé le jeu le plus faible possible. Bref, ça n'a rien à voir du tout, mais prenez le contrôle de vos clés, tout simplement. Guillaume, tu levais la main?
Non, mais en vrai, j'ai plus envie de dire ce que je voulais dire. Par contre, moins de World of Warcraft et plus d'implémentation du podcast sur des plateformes Lightning compatibles. Voilà.
Moi, je dois y aller. Ça coupe, je passe dans le tunnel.
Alors là, c'est le missile. Il y a eu des morts. Hein.
Top. Ouais, c'était le missile qui revenait, donc je me suis un peu. Je suis resté silencieux pour pas qu'il me target. Je sais pas si quelqu'un a ouais, envie d'ajouter quelque chose sur le papier ou plus généralement d'ailleurs sur ben voilà, tout ce qu'on vient de parler. Moi, je pense, enfin, pour moi, j'ai fait un peu le tour. Effectivement, comme John l'a dit, je vous invite vraiment à lire avec attention d'une part le rapport. Qui est un peu technique, mais qui se lit quand même. Et puis d'autre part, évidemment, la réponse qu'a faite Swan, qui se lit bien aussi et qui permet de rapidement résumer la réponse qu'on peut faire aux points principaux du rapport. Ouais, Random?
Oui, bonjour, moi c'était pour poser une question, donc je vais vous laisser terminer votre truc d'abord.
Non, non, vas-y.
Ah d'accord. Bah du coup c'était pour parler de la couche de chiffrage pair à pair qui va être intégrée pour Bitcoin. Je ne sais pas si ça va vraiment être utile, puisque de toute façon, comment dire, les données en fait qu'on va faire des transactions, etc., elles sont déjà transparentes. Donc enfin, quel est le risque principal en fait de laisser ces communications de son nœud entre guillemets en non chiffré, quoi?
En gros, c'est principalement et que n'importe qui intercepte la communication, et donc ça peut être ton fournisseur d'accès à Internet, par exemple, est en mesure de voir que tu fais du trafic Bitcoin. Ce qui, dans un contexte de surveillance de masse, par exemple, quand ton ennemi dans ton système de menace, c'est l'État du pays dans lequel tu vis, par exemple, peut être problématique parce que ça permet de te targeter, par exemple, avec ton IP. Si vraiment tu vas en mode clear complet et que tu n'as pas de truc qui obfusque ton IP, ce genre de choses.
Mais ça règle pas le
Donc, du
problème qui est, comment dire, le chiffrage, parce que en gros, le chiffrage, c'est pour justement avoir les données qui vont être, comment dire, transmises entre nœuds confidentiels. Mais vu qu'on est sur du pair à pair, ils connaissent ton IP du moment que justement tu n'utilises pas, je sais pas, Tor ou bah, voilà une solution entre guillemets pour se cacher derrière un serveur ou quoi que ce soit, quoi. En fait, la partie chiffrement, c'est vraiment de l'obfusc... enfin, c'est du chiffrement et de l'obfuscation. Le but, c'est de que ton
Ah,
trafic
d'accord.
Bitcoin soit indiscernable de quelque chose de complètement random, ou même à terme que ça ressemble à du trafic HTTP ou du trafic SSH, et que ça soit vraiment beaucoup plus compliqué de déduire. Parce que là, actuellement, vraiment, quand c'est en clair, ben, enfin, voilà, SFR, il regarde, il voit ce que tu es en train de faire. Alors que voilà, là, le but, ça serait vraiment que ce soit ben, vraiment beaucoup plus compliqué de dire avec un certain degré de certitude que ben là, il y a quelqu'un qui fait du trafic Bitcoin.
OK.
Ça, puis diminuer les métadonnées qu'on voit, je pense que c'est une bonne approche générale que quand on utilise Internet et les fournisseurs d'accès, de diminuer les métadonnées qu'on communique à travers la couche base du réseau, éviter bah, la suppression via ce qu'on disait au début des DPI, de supprimer les transactions à la réception. Puisque c'est le genre de choses qu'on peut faire et qui est plus compliqué à faire avec une couche de chiffrement. Donc voilà, il y a un certain nombre d'aspects. Et surtout avoir du chiffrement global sans avoir à dépendre de réseaux cassés comme Tor.
Ouais, ça permet de voilà d'avoir une entre guillemets une bonne config qui est assez sûre pour tout le monde, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Sachant que ça reste vraiment quelque chose de complètement opt-in, mais effectivement, c'est l'idée de dire que on veut pas que tu vois les gens ils soient obligés de se prendre la tête à faire tourner en plus Tor ou I2P ou un truc comme ça. Et donc autant le mettre, même si c'est optionnel, directement dans Bitcoin Core, comme ça c'est fait.
Sur quel...
Doc, ouais, vas-y.
Et ben, en fait, justement, par rapport à cette question de chiffrement, ça va transiter par quel port réseau?
Parce que justement, ça serait bien effectivement pour le camoufler que ça passe par le port 22 ou directement le port 443, là où il y a franchement un trafic super large et on va dire un port qui ne pourra jamais être bloqué par les opérateurs. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a déjà de ça quelques années, ils pensaient mettre des services Internet un petit peu à la carte, du genre bah, on vous laisse profiter des ports 80, 443 et 53. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est ce qui permet de surfer de mode traditionnel, et après, si on veut accéder à d'autres ports, etc., il fallait payer des abonnements supplémentaires, etc.
Le problème de ça, c'est que le port, c'est une chose, et c'est légèrement insuffisant dans le sens où les équipements, ils savent dire le port et le protocole qu'il y a derrière. Et donc, si tu paies pas, tu mimes pas vraiment le protocole derrière, donc par exemple HTTPS, bah, tu seras toujours enfermé là-dessus. Mais ça, c'est des sujets sur la neutralité du net qui sont extrêmement vastes et pour lesquels il faut qu'il y ait une réponse à peu près cohérente. Donc, ce que disait Fanny, c'était justement de dire, essayer de trouver des manières un peu cohérentes pour obfusquer de manière générale l'accès à Internet et pas simplement genre l'accès à Bitcoin. Mais je vois ce que tu veux dire.
Ce que je voulais rajouter pour Doc par rapport au port, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, les ports, c'est juste des portes d'entrée et de sortie que toi, tu décides d'ouvrir. Ce n'est pas vraiment des, comment dire... Ouais, enfin, voilà, en général, on va ouvrir le port 343, etc., pour que ce soit généralisé, que ce soit du SSL, etc. Mais normalement, c'est toi qui vas choisir, entre guillemets, le port que tu vas ouvrir, etc. Et tu peux mettre à peu près n'importe quel protocole. Par exemple, tu pourrais faire du FTP en 443 si... il n'y a pas d'autres charges qui sont ouvertes ou quoi.
Je maîtrise, je parlais plus, on va dire, pour les personnes lambda qui installent un nœud chez elles.
Ouais, j'ai capté, t'inquiète.
Je crois d'ailleurs que ce que tu décris là, ça se fait un peu dans certains abonnements aux États-Unis, il me semble, où ils sont moins regardants sur la neutralité du net.
Ouais. Après, je sais que je crois que c'est au Portugal, si je dis pas de bêtises, où genre t'as des forfaits, donc déjà c'est pas de l'internet illimité comme on connaît en France, et c'est genre t'as des gigas, mais vers telle et telle plateforme, de genre t'as le droit à 30 gigas vers YouTube, 10 gigas vers Facebook, etc., etc. Et après t'as genre il te reste, je sais pas, admettons 30 gigas pour surfer vers ce que tu veux, quoi.
Ouais, cool. Bah, en tout cas, merci Doc. C'est vrai que c'est une bonne question, je n'avais même pas pensé au port. Marc Sicily, X, je vois qu'il nous a rejoint. N'hésite pas, ouais, c'était une question effectivement à poser. En bas à gauche pour te démute.
Ouais, salut, merci. Vous m'entendez bien parce que j'ai des écouteurs?
Ouais, on t'entend.
Ouais, non, franchement, bah. Moi, j'ai pas grand chose à dire là tout de suite sur ce qui était. Vous êtes très, très dans le technique, en fait. Et en fait, je vous écoute parce que je vois qu'il y en a que je suis depuis un moment ou qui sont passés par des spaces que j'avais fait avant, etc. Parce qu'avec un copain, on fait une chaîne qui s'appelle, un Twitter, on a un Twitter qui s'appelle On sort des banques. Et en fait, où on veut qu'en fait, ici, on est chez les initiés, mais. Le but, c'est de toucher des gens qui ne connaissent pas grand-chose et qui comprennent l'intérêt des cryptos et surtout des cryptos privés avec ce qui se prépare. Et voilà. Ça, c'est juste une façon de me présenter. Après, je ne sais pas si ça fait partie de la conversation.
Yes,
bah,
c'est ouais,
non, les spaces, c'est donc... hebdo, et on parle de l'actualité Bitcoin, et quelquefois c'est plus technique, et d'autres fois c'est un peu, on parle d'éléments moins techniques ou plus politiques, etc. C'est juste que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu fait de space très très technique.
Ça marche, ok. Bah après, c'est vrai que c'est intéressant de parler de la macro pour comprendre l'impact que ça peut avoir sur les cryptos, en tout cas à court terme.
Alors par contre, nous on parle pas de crypto, on parle de Bitcoin. Hein.
D'accord. Pardon, j'ai pas entendu ça.
Non, c'était une petite boutade envers John, rien d'important.
Non, mais parce que tout le monde parle tout le temps de crypto, Donc, si on peut avoir un safe space où on parle que de Bitcoin, au moins ça contrebalance un petit peu ce qu'on entend à longueur de journée sur Crypto Twitter.
Qu'est-ce qu'on entend à longueur de journée?
Bah parce que dans le paysage de l'actualité.
Débat, non,
non, non, et puis on va arrêter, je promets, mais on entend à 90%.
Moi, je trouve que c'est bien de parler de crypto si on parle de courbe elliptique et tout.
Oui, toi, tu veux juste Phil Monero, on te connaît, reste à ta place.
Mais il a raison, c'est bien Monero aussi, c'est bon.
Bon, les fans, tu.
De toute manière, c'est la crypto, c'est comme Internet, de toute manière. C'est-à-dire qu'à l'époque d'Internet, il y a eu des. Tunnel.
Ah ouais, ça a coupé. Bref.
On dirait bien qu'il
y a
commencé les attaques. Hein.
Il est voilà, il est 19h30, donc je pense qu'on va couper tout doucement. N'hésitez pas si vous avez une question. Là, ça menait pas à grand chose. Et puis sinon, on va se dire tranquillement à la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Merci Doc, merci Session. Merci Julien aussi pour ta contribution pour RGB, c'était vachement cool de t'avoir. Voilà, on a commencé au bloc 743461, on est au bloc 743472, 11 blocs voilà, d'émissions que vous pouvez retrouver sur YouTube dès demain lundi. N'hésitez pas à nous rejoindre en live le dimanche soir à partir de 18h sur Twitter. Merci encore à tout le monde et bonne fin de week-end. À la semaine prochaine. Bisous.
Bisous. À toi, Fanus.
Ciao, ciao.
Bisous.
Bisous.
Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreons, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!